Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Belinda Bosuma pour le journal.
Le rassemblement de l'opposition dénonce la brutalité du régime en place lors de ses manifestations d'hier à travers la RDC, mais la majorité au pouvoir, elle, parle plutôt d'un véritable échec. Le rassemblement veut ainsi réclamer notamment le départ du régime en place. Pendant ce temps, la MONUSCO a remis hier à la CENI un plan de soutien logistique pour le nouveau cycle électoral. C'est après avoir reçu une requête formelle de la commission électorale dans ce sens. Et puis, journée internationale contre le sida, c'est aujourd'hui 1er décembre. À l'occasion, Radio Capi reçoit ce matin le directeur pays de l'ONU Sida RDC à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bon réveil à tous. Certaines villes congolaises ont tourné presque au ralenti hier. La marche annoncée par le rassemblement de l'opposition et quelques mouvements citoyens pour réclamer notamment le départ du président Kabila le 31 décembre prochain a été empêchée par les forces de l'ordre. Ces manifestations, pour rappel, n'ont pas été autorisées par les autorités. Résultat, on a plutôt assisté à une journée ville morte à Kinshasa et dans certaines villes du pays. En réaction, le rassemblement dit féliciter le peuple congolais d'avoir suivi le mot d'ordre, tout en dénonçant la brutalité du régime en place contre certains membres de l'opposition, dont John Mbombo, président interfédéral de l'ADP à Mbujimayi. Écoutez à ce sujet Christophe Lutundula, président de l'Alliance des démocrates pour le progrès et cadre du rassemblement.
Je voudrais d'abord saluer le courage, pour ne pas dire l'héroïsme, de tous les compatriotes qui, à travers le pays, ont manifesté en réponse à l'appel du rassemblement et de certains mouvements citoyens. Je voudrais stigmatiser la répression aveugle du pouvoir de Joseph Kabila, dont certains d'entre eux ont été victimes. La marche d'aujourd'hui a été l'occasion pour nous de démontrer une fois de plus que le régime Kabila est un régime de dictature qui n'attend point céder en quoi que ce soit et qui attend, comme c'est le cas aujourd'hui, s'imposer par la force, nous imposer des lois liberticides comme la loi électorale A et menace à coup de billets de banque et par la répression. Nous devons continuer à manifester pacifiquement. Nous avons choisi la voie démocratique et non celle de la violence. Le peuple vaincra parce que le dernier mot lui revient. Tout le monde comprend maintenant, avec la loi électorale, que nous ne pouvons rien attendre du régime Kabila. Et c'est pour ça que le rassemblement dit, si nous voulons avoir des élections démocratiques dans le respect de la Constitution, il faut mettre Kabila hors du processus électoral, donc élection sans Kabila.
Pour la majorité présidentielle, l'appel à manifester le 30 novembre, lancé par l'opposition radicale, est un véritable échec. Dieudonné Mouenze, l'un des communicateurs de la MP, invite cette frange de l'opposition à s'y raviser. L'heure est à la préparation des élections, puisque le calendrier électoral a été accepté par tous et non à ce genre de manifestation qui n'intéresse personne, affirme-t-il. On l'écoute.
Il s'agit réellement d'un échec, puisque la journée devait en principe être une journée de la marche. Et nous avons toujours dit aux amis de l'opposition radicalisée que, en principe, leur mot d'ordre n'a jamais été écouté par notre population, celle de Kinshasa comme celle à travers le pays. Ils se sont rendus compte que les Kinois, comme les Congolais en général, n'ont pas suivi pratiquement dans toutes les villes, y compris Kinshasa. Et la police a fait son travail avec professionnalisme. Tout s'est passé normalement. Nous, nous disons que ça ne sert à rien d'envisager la possibilité de parler d'une transition sans Joseph Kabila. Non. Puisque jusque-là, le décor est déjà planté pour aller vers les élections. Le calendrier est sorti. La plupart des Congolais ont accepté ce calendrier. La communauté internationale l'a avalisé. Le Conseil de sécurité a même pris bonne note de cette date du 23 décembre 2018. Et là, nous sommes dans le processus vers les élections. On ne comprend plus rien. On appelle les gens aujourd'hui dans les rues pour faire quoi. Donc il s'agit d'une démarche qui a échoué.
C'est un dossier signé Pele Kipela Mondo. Parlons justement de la manifestation d'hier. Le comportement des forces de l'ordre et des autorités a été dénoncé dans certains endroits. C'est le cas à Bukavu. Ici, ce sont les femmes membres du Rassemblement Sud Kivu qui dénoncent, selon elles, la brutalité avec laquelle la police a réprimé la marche pacifique de ce jeudi. Elles condamnent aussi le comportement du maire de Bukavu. Écoutez l'une d'entre elles.
Nous avons appelé toutes les femmes de partis politiques de l'opposition du site Kivu, le mouvement citoyen et de la société civile de se joindre à nous pour manifester, pour marcher afin de réclamer les élections, après de réclamer l'alternance. En tant que femmes qui subissons tout ce qui se passe dans les pays parce que ce sont nos maris qui ne sont pas payés, ce sont nos filles, ce sont nous-mêmes qui sont violées. Et on se dit on ne doit pas continuer à vivre dans ces régimes de prédateurs. Malheureusement, nous avons vraiment en face de nous des dirigeants qui ont vraiment réprimé cette marche d'une manière là très violente que moi-même je n'ai jamais vue. J'ai été moi-même voir le maire de la ville avec la camarade Espérance Endoua. Nous étions encore dans le bureau du maire de la ville. Imaginez-vous, toute une autorité comme un maire de la ville, nous allons dans son bureau, il nous met sous écoute. Imaginez-vous. Et donc, M. Kabila avait se maintenu au pouvoir par force, et nous, les femmes du Sud Kivu, nous allons nous lever pour le départ de M. Joseph Kabange.
Même son de cloche à Mbujimayi. Là, le RASOP Kassai Oriental dénonce la brutalité des forces de l'ordre et l'arrestation de plusieurs membres de l'opposition et militants des mouvements citoyens. Une délégation de cette plateforme a rencontré hier même à la mi-journée la chef du sous-bureau de la MONUSCO Mbujimayi pour lui remettre son mémorandum et exprimer sa déception du fait que la manifestation ait été empêchée. On écoute Lazare Chimpinda, chef de la délégation du RASOP Kassai Oriental, au micro de Chris Mukande.
Aujourd'hui, nous avions projeté une marche pacifique qui a été étouffée dans l'œuf, mais qui a le mérite d'avoir donné une victoire au peuple kassaïen parce que cette manifestation a ralenti les activités. Ce que nous avons voulu émettre comme souci a été entendu. De l'autre côté, nous avons voulu dénoncer le fait que nous avons été victimes d'une brutalité dont l'un de nous a été carrément kidnappé hier la nuit, Maître John Bombo, qui est notre porte-parole, qui a été sauvagement arrêté, ligoté, bâillonné, torturé et jeté dans un ravin. Et maintenant, au moment où nous parlons, il est sur les lits de l'hôpital. Au courant de cette même journée, alors que nous avons voulu que les choses aillent pacifiquement, on a connu des arrestations du président du rassemblement qui a été arrêté avec d'autres camarades. Nous avons appris également, nous allons le contrôler bientôt, les arrestations des militants de la Lucha et d'autres personnes sont menacées.
Sur place à Mbujimayi, la police ne confirme que l'interpellation de Denis Kalombo. Quant aux autres cas d'arrestation dénoncés par le RASOP, elle n'est dit mot. À Kinshasa, la police annonce la libération des opposants Martin Fayulu et Jean-Bertrand Iwanga, interpellés en marge de la marche interdite. Selon le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, ils ont été relâchés parce que jouissant de l'immunité parlementaire. Quant à Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, il serait encore détenu jusqu'à présent, en croix à Ruben Mikindo, secrétaire général adjoint du parti cher à Félix Tshisekedi. Parmi les personnes interpellées en marge de cette manifestation, on cite également Augustin Kibasa Maliba, président national de l'UDPS Kibasa. Dans un communiqué publié hier dans la soirée, son parti exige sa libération sans condition. Par ailleurs, tous les évêques de l'église anglicane au Congo appellent le président Kabila à s'impliquer dans la décrispation de l'espace politique du pays. Ils lancent également des appels à la CENI, au gouvernement et à la communauté internationale en rapport avec l'organisation des élections. Ces évêques s'expriment ainsi à l'issue de leur synode national tenu à Arua en Ituri. José Deschartes Menga résume leur message dans ce reportage.
Les 12 évêques anglicans se sont penchés sur la situation politique du pays. Dans leur déclaration, ces pères de l'église ne sont pas allés par quatre chemins pour désigner les choses. En tout cas, les mots sont forts. Ils se disent interpellés par la crise politique, la pauvreté et la souffrance qui accablent presque tous les Congolais et les massacres des populations innocentes. Ils appellent Joseph Kabila à décrisper la situation en libérant tous les prisonniers politiques. L'archevêque Zachary Massimango, chef de l'église anglicane en RDC.
Nous demandons au chef de l'État, par exemple, de libérer les prisonniers politiques, comme il a déjà fait, de continuer avec ces processus et aussi de respecter la constitution telle qu'il a toujours dit.
Ces évêques appellent aussi à la tenue des élections dans le délai. Pour cela, ils exhortent le gouvernement et la communauté internationale à donner des moyens à la CENI. Monseigneur Zachary Massimango.
Les évêques ont demandé à la CENI de respecter les calendriers déjà publiés, que le président de la République aussi fasse tout pour que ces calendriers aussi soient respectés. Nous avons aussi demandé l'appui de la communauté internationale, surtout de respecter les engagements signé dans les différents accords.
Ces évêques appuient également l'accord du 31 décembre 2016 qui reste, pour eux, une bonne feuille de route pour la légitimité des institutions en RDC. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Je vous le disais, en titre, la direction de la MONUSCO a remis hier à la CENI un plan de soutien logistique. C'est après avoir reçu une requête formelle de la Commission électorale nationale indépendante dans ce sens. Mais en quoi consiste concrètement ce plan ? Réponse de la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal, au micro de Jean-Pierre Hilali.
Concrètement, la MONUSCO, comme cela est inscrit dans le mandat que lui donne le Conseil de sécurité, dans la résolution 2348, va apporter un soutien logistique et une assistance technique aux futures opérations électorales. Le modèle qui va être retenu sera à peu près le même que celui qu'on a connu pour les opérations de révision du fichier électoral. Vous vous en souvenez, l'année dernière, entre novembre et avril, la MONUSCO avait accompagné le déploiement du matériel sur le terrain. Plus de 4000 tonnes de matériel avaient été déployées sur le terrain, notamment dans les antennes difficiles d'accès. À ce moment-là, la MONUSCO avait loué des équipements supplémentaires, des avions et des hélicoptères. Donc ce sera un dispositif un peu similaire qui va être pris pour ce nouveau cycle électoral.
En territoire de Bénio-Nord-Kivu, au moins une vingtaine d'écoles dans 9 villages de la chefferie de Bachou ne fonctionnent pas depuis 3 mois maintenant. C'est suite à l'insécurité causée par les groupes armés. Cette information est confirmée par les autorités scolaires de Béni qui parlent plutôt de plus d'un mois. Selon un activiste des droits de l'homme dans la région, les Maïmaï qui règnent en maître dans cette partie du territoire interdisent aux élèves et enseignants de fréquenter le chemin de l'école. Cet activiste s'est confié à Denise Luquesso.
Il n'y a plus des activités scolaires, notamment dans les villages de Kasimbi, Kitolu, Kasumbi, Kisanga, Museke, Burusi, Ngite, Kasongwere et Kikuku. Donc c'est au moins 9 villages. Et dans tous ces villages-là, le personnel éducatif, les élèves ne vont plus à l'école, tout simplement parce qu'il y a des menaces terribles de la part de ces Maïmaï. Et ces Maïmaï menacent de tuer tout personnel éducatif qui osera aller à l'encontre de leur volonté. Ils disent que les élèves étudieront après le départ du président Joseph Kabila. C'est pourquoi nous sommes en train de plaider pour une opération militaire. Si vraiment l'État ne va pas s'impliquer, alors on va assister à une année scolaire blanche dans cette partie du territoire de Béni.
La ministre provinciale de l'Éducation dit suivre de près cette situation. Adèle Bazizane annonce les pourparlers dans les jours proches avec les autorités scolaires de Béni pour voir ensemble ce qu'ils peuvent faire pour sauver l'année scolaire. Et puisque nous parlons d'éducation, notez que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, appelle les étudiants de l'université de Bunia au calme. Appel lancé hier à Kinshasa après avoir reçu ensemble avec son collègue Lumé Adoumalegui des affaires foncières, le caucus des parlementaires de l'Ituri et les membres de la FEC. Objectif de cette rencontre, voir dans quelle mesure décanter la situation qui prévaut à l'université de Bunia. Steve Mbikai au micro de Richard Kamunga.
Et avant de pouvoir aller en profondeur, je lance d'abord un appel au calme aux étudiants de l'université de Bunia, parce que nous sommes en train de chercher une solution qui leur est favorable. Ils ne seront jamais déguerpis de leur site actuel. Nous sommes en train de voir avec le caucus député de l'Ituri, les deux ministères, avec l'université, comment est-ce que nous pourrons obtenir, avoir des bâtiments à eux qui seront construits par le gouvernement. Mais nous allons faire le rapport au Premier ministre sur ce dont on vient de parler ici, pour arrêter la conclusion qui doit dans le sens de protéger d'abord l'université, mais aussi protéger les intérêts des privés.
Actualité Afrique Monde.
Notez d'abord ce séisme de magnitude 6 qui s'est produit tôt ce matin dans l'est de l'Iran, près de la ville de Kerman, a annoncé l'Institut géologique américain. Le centre sismologique de l'Université de Téhéran a pour sa part rapporté un séisme de 6,1 suivi des deux autres au nord de Kerman. Lors d'un entretien téléphonique, le sous-préfet a affirmé que pour l'instant aucun mort n'a été signalé, mais il y a eu des dégâts dans plusieurs villages habités, a déclaré à la télévision d'État un responsable de la cellule de crise de la province de Kerman et selon la même source, des équipes de secours ont été dépêchées dans la région. En Argentine, pendant ce temps, la marine a annoncé officiellement ce jeudi qu'elle n'avait plus d'espoir de retrouver en vie les membres de l'équipage du sous-marin San Juan, porté disparu au large des côtes de Patagonie depuis le 15 novembre. Au-delà de la douleur, les familles des sous-mariniers se sentent flouées. Les recherches continuent mais l'opération de sauvetage est terminée. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la marine, mais 8 familles des 44 membres de l'équipage ont affirmé qu'elles porteraient plainte devant la justice.